Et on s'intéresse donc cet après-midi effectivement à un phénomène de plus en plus fréquent, la puberté précoce des petites filles, avec un nombre croissant d'entre elles qui montrent des caractères secondaires sexuels avant l'âge de 8 ans. Le développement des seins par exemple et les perturbateurs endocriniens sont parmi les premières causes pointées du doigt. C'est dans un instant le dossier de la tête au carré avec toutes vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, des scientifiques qui sont parvenus à implanter de faux souvenirs de plaisir à des souris endormies.
C'est beau, hein ? Une prouesse technique et une belle avancée pour la connaissance des mécanismes de la mémoire. Vos questions pour ces jeunes neurobiologistes sur le hashtag l'attaque également.
Et ils seront nos invités dans un instant. C'est Violaine Ballet qui réalise aujourd'hui cette émission, dossier préparé par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La puberté précoce, un phénomène donc qui devient alarmant. C'est dans un instant le dossier de la tête au carré. Isabelle Fleschner et François Veillerette, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Isabelle Fleschner, vous êtes pédiatre endocrinologue. Certains scientifiques parlent d'épidémie de puberté précoce. Est-ce qu'on en est là véritablement aujourd'hui ?
Alors pour l'instant, on n'a pas de chiffres précis en France, mais on a une nette augmentation effectivement de la puberté précoce chez la petite fille. C'est un phénomène mondial qui a démarré sur le continent américain et qui arrive aussi en Europe depuis une dizaine d'années.
Et on a des chiffres par contre pour les États-Unis, pour essayer de mesurer un petit peu l'ampleur du phénomène. On parle de 14% de petites filles concernées, c'est ça à peu près ce que montrent les chiffres?
Oui, ça doit être à peu près ça. On pense qu'en Europe, on n'est pas à des chiffres aussi élevés, mais on voit une augmentation des chiffres.
François Veillerette, ce sont encore vos ennemis jurés, les perturbateurs endocriniens, qui seraient les principaux responsables de cette précocité de la puberté?
Ils font partie des facteurs de risque, bien évidemment, mais les perturbateurs endocriniens sont liés à bien d'autres pathologies, des malformations, des problèmes de fertilité, certains cancers, etc. Mais effectivement, ces symptômes-là font partie des symptômes qui sont liés aux perturbateurs endocriniens.
Et vous sortez un livre autour de la question, perturbateurs endocriniens, la menace invisible, on en parlera avec vous dans quelques instants. Précocité d'ailleurs qui concerne aussi les garçons dans une moindre mesure. C'est le dossier donc dans un instant, les messages et les témoignages arrivent sur franceinter.fr. Une de la science, donc aujourd'hui, de faux souvenirs implantés dans le cerveau des souris.
Une fois que le cerveau est sous l'emprise d'une idée, celle-ci est presque impossible à éradiquer. Une idée qui est entièrement façonnée, pleinement intégrée, ça s'incruste là-dedans, quelque part.
Voilà, c'est à peu près ce que se sont dit nos scientifiques dans leur laboratoire avec une belle démonstration autour du fonctionnement de notre mémoire. Karim Benchenam, bonjour.
Bonjour.
Marion Lacroix, bienvenue à vous également. Alors vous êtes neurobiologiste, vous travaillez tous les deux pour le laboratoire CNRS Plasticité du cerveau. Karim Benchenam, vous dirigez l'équipe MOBS à l'origine donc de cette publication parue lundi dans la revue Nature Neuroscience. Vous avez donc réussi à insérer un faux souvenir dans le cerveau d'une souris pendant son sommeil. Il va quand même falloir que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit et comment vous y êtes parvenu.
Oui, donc ça peut paraître un peu marrant, mais en fait tout ça c'est parti de la découverte des cellules de Lieu faites par John O'Keefe en 1971, qui sont des neurones qui se retrouvent dans l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans la mémoire, qui décharge en fait quand l'animal se trouve dans un endroit particulier de l'environnement.
Ça c'était un Nobel d'ailleurs, oui. Pour O'Keefe, sur la géoposition dans le cerveau,
voilà,
c'est ça?
C'est une sorte de GPS interne qui nous permet de naviguer dans l'espace et de nous trouver dans un environnement.
Donc vous êtes inspiré en fait de cette théorie?
Exactement. En gros, c'est quelque chose qui a été découvert en 71 et depuis 30 ans, toutes les découvertes confirment un peu la théorie qu'il a proposée à l'époque. Et donc, on a un faisceau d'évidence qui confirme ce qu'il a proposé. Mm-hmm. Mais la preuve directe, la démonstration directe d'un lien causal entre l'activité de ces cellules et la représentation d'un lieu dans l'espace physique, elle était toujours un peu manquante.
Donc, il fallait travailler sur ces neurones de lieu.
Exactement. C'est ce qu'on appelle des cellules de lieu. Et en gros, l'idée, c'est si jamais, quand l'animal est dans un lieu précis, le neurone décharge, la question, c'est est-ce que si, quand l'animal est dans un autre lieu et que ce neurone décharge, est-ce qu'il est en train de penser au lieu précis?
Est-ce que la souris pense? C'était ça.
Et donc, c'est la question. Donc, on va utiliser beaucoup de comme-if, parce qu'on n'a pas de preuve directe de la pensée de la souris. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'une des deuxièmes observations qui a été faite, c'est que lorsqu'on la souris fait une trajectoire pendant l'éveil, en fait, quand elle dort, elle rejoue ses trajectoires pendant le sommeil. Donc on est capable en fait de voir les trajectoires que la souris fait en rêvant. Et quand on lui fait un apprentissage, on s'aperçoit qu'elle rejoue ses trajectoires pendant le sommeil et que ses réactivations, ses replays, participent à la consolidation de la mémoire. Et donc on a utilisé ces activités pendant le sommeil Parce que là, la position de l'animal était... il y avait une décorrélation entre la position réelle de l'animal, puisqu'il dormait, et l'activité de ses cellules.
C'est carrément de la souris téléguidée, alors, c'est ça?
Carrément, enfin, on ne peut pas choisir exactement ce qu'on lui fait faire. C'est très basique. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est quand la souris rejoue pendant le sommeil une trajectoire, par exemple un endroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interface sur machine qui peut détecter l'activité de cette cellule de lieu en temps réel. Et quand elle réactive pendant le sommeil un lieu particulier, on va déclencher automatiquement une simulation de récompense. C'est une simulation un peu dans une région du cerveau qui est associée à la notion de plaisir, donc principalement les fibres dopaminergiques. Et donc l'idée, c'est que si le neurone contient toujours une information spatiale pendant le sommeil, si on lui associe une récompense, on va faire une association avec le lieu physique dans l'espace.
Et donc la souris va se diriger directement vers le lieu programmé en fait par vous, c'est ça ?
Quasiment. Donc on n'a pas choisi exactement le lieu, on a pris ce qu'on pouvait avec l'activité des neurones. Mais en fait, on fait cette association avec une cellule de lieu et la récompense, on réveille l'animal, et au réveil, l'animal allait dans le lieu. Donc comme si...
Exactement.
Il avait une représentation de l'association qui avait été faite.
Et tout ça s'est passé pendant le sommeil, hein, ce qui est extrêmement important, évidemment, dans le cadre de cette publication.
Oui, c'est-à-dire que pendant l'exploration avant, on n'avait pas donné de récompense du tout à la souris.
Alors Marie Lacroix, vous êtes l'une des deux thésardes de l'équipe, et pour réussir cet exploit, vous avez dû, paraît-il, surmonter un défi technique de taille pour suivre justement l'activité d'un seul et unique neurone, c'est ça, dans le cerveau de la souris?
Oui, en effet. Donc quand on enregistre l'activité électrique du cerveau, on implante des électrodes, donc c'est quand même très très fin.
Ça fait pas mal à la souris, vous nous rassurez?
Voilà, donc en fait, effectivement, quand on les implante, c'est sous anesthésie générale, donc la souris ne sent rien, l'électrode, c'est plus fin qu'un cheveu, et donc après, on referme tout, et la souris peut se comporter complètement normalement avec ces électrodes qui nous permettent d'enregistrer l'activité de son cerveau.
Et, donc le défi, c'était quoi pour vous?
Donc le défi, c'était vraiment de pouvoir repérer au sein de toute cette activité neuronale qu'on enregistre, le neurone.
L'unique neurone, c'est ça ?
Enfin, un neurone que l'on peut distinguer des autres et qui a ses propriétés spatiales, donc de cellules de lieu, qui codent bien pour un lieu précis. Effectivement, ça, c'était le challenge technique, puisque souvent, quand on enregistre l'activité du cerveau, on enregistre beaucoup de neurones à la fois. Et donc, il faut pouvoir distinguer celui-là en particulier.
Et donc, vous avez relevé le défi technique, justement.
Voilà, au bout de...
Axel,
est-ce que ça nous apprend des choses sur notre façon de mémoriser vos travaux publiés dernièrement ?
En fait, ce que ça montre, c'est que vraiment l'activité des neurones est quasiment suffisante pour entraîner une représentation de l'espace. Et ça montre aussi que ce qui se passe pendant le sommeil, c'est réellement des réactivations des informations spatiales vécues pendant la journée. Ouais. Donc c'est vraiment une preuve directe que ce qui se passe pendant le sommeil, c'est vraiment des réactivations de ce qu'on a appris. Et donc c'est la preuve physiologique du remède de grand-mère qui dit qu'il faut apprendre ses leçons avant de se coucher.
Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, pour bien mémoriser, Marie Lacroix, il faut bien dormir, c'est ça,
hein? Il faut vraiment retenir ça. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de résultats qui montrent que le sommeil est important pour la mémoire. Mais c'est vrai que nous, par notre article, on précise un petit point sur tout l'ensemble des connaissances qui existent déjà sur la consolidation de la mémoire pendant le sommeil.
Karine Benchenam, il y avait quand même une prouesse là, pour réussir un tel exploit, parce qu'effectivement il y avait la théorie, c'est-à-dire qu'il y avait ce prix Nobel, on en a parlé avec vous, et là vous êtes vraiment dans la démonstration en fait. Pourquoi c'était aussi long avant de pouvoir vraiment le démontrer?
C'est principalement des problèmes technologiques, une technologie qui est exponentielle à l'heure actuelle. La théorie pareil des réactivations, ça a été proposé en 1989 par Yuri Boujaki. Donc tout le cadre théorique est là, et parfois c'est un peu frustrant quand on est jeune chercheur, c'est que quand on lit la littérature, on s'aperçoit que tout était déjà un peu là. Oui. Simplement, nous, on a la technologie pour le faire plus rapidement. Et après, comme on n'a pas la puissance de feu des Américains, on doit avoir des protocoles un petit peu intelligents.
Eh oui, vous êtes malin, parce que vous arrivez quand même à les devancer et à faire de belles publications. Et c'était pour ça aussi qu'on avait envie de vous inviter aujourd'hui pour en parler, parce que John O'Keefe, donc ce Nobel dont vous parliez tout à l'heure, découvert donc du système de géoposition dans le cerveau, c'est quelqu'un que vous admirez aussi énormément quand même.
Complètement. Mais cette découverte, c'est vraiment trouver un iPhone au Moyen-Âge. C'est vraiment hallucinant de voir avec tout ce qui...
Parce que sa découverte à lui, c'était les années 70, des années
71. 71, c'est vraiment 71. Et en fait, la quasi-totalité, en plus, il a pas seulement fait une découverte, il a apporté tout le cadre conceptuel avec, qui allait, toute une théorie qui s'est avérée vraie.
Il a lu votre publication ou pas ?
Alors, je ne sais pas encore.
Ah bah, il faut lui envoyer tout de suite, en tout cas, Axel.
Est-ce qu'il faut avoir peur des applications humaines dans 30 ans ? Puisque maintenant, on parle à saut de 30 ans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec ça ? Parce que là, on est sur la souris. D'abord, est-ce qu'on peut le transposer à l'humain ? Et ensuite, quel type d'application, effectivement ?
Oui, alors, bon, le gros problème, c'est de mettre des électrodes dans le cerveau. Ça reste un problème majeur. On ne va pas le faire pour contrôler sa télécommande. Donc, c'est utilisé en traitement chez des patients épileptiques ou de tumeurs. Mais ça ne peut pas être généralisé pour des applications autres que des applications cliniques majeures. Donc, après, une des possibilités, c'est sur le stress post-traumatique ou des choses comme ça, parce que l'idée, c'est de remettre les gens dans une situation proche de la situation traumatisante et d'essayer d'inverser la valence de cette expérience. Mmh. Le problème, c'est que le cerveau sait que c'est faux. Même si on le met dans des imageries virtuelles ou des choses comme ça pour être plus immersif, le cerveau sait que c'est faux. Et l'hypothèse, c'est que si on arrive à le faire pendant le sommeil, bah là, pendant le sommeil, pendant les rêves, pour le cerveau, c'est vrai. Ouais. Et donc, on serait peut-être plus efficace. Mais pour ça,
désactiver le traumatisme, en fait, voilà, c'est un peu ça.
Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une récompense. Mais on ne veut surtout pas faire ça chez l'homme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre une récompense pour quelque chose qui est aversif. On veut casser l'association aversive. Donc, il faudra trouver un autre mécanisme. On ne veut surtout pas rendre.
Avec tous les problématiques qui se posent, évidemment, sur la manipulation mentale. Hein, parce qu'en fait, on peut en arriver là quasiment.
Voilà,
même si, a priori, il y a de belles applications possibles, mais ça pose un certain nombre de problèmes.
Toujours. Après, c'est vrai, et vous avez fait une émission là-dessus, on peut le faire aussi avec des manips simplement de psychologie. Oui. On peut arriver aux mêmes observations qu'avec des électrodes qui vont coûter très très cher pour un seul sujet et avec des expériences qui durent très longtemps.
Marie Lacroix, qu'est-ce que ça fait de commencer sa jeune carrière de scientifique avec déjà une découverte d'une telle envergure quand même?
Bah, je pense que j'ai surtout eu la chance d'arriver au bon moment dans l'équipe de Karim. Oui. Et effectivement, oui, c'est une très grande chance.
Ça commence bien, en tout cas. Et félicitations donc pour cette publication qui est parue lundi. Axel, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre à la Une de la Science, on peut désormais podcaster ce rendez-vous séparément.
Séparément, vous pouvez podcaster les 10 minutes de la Une en plus du dossier tous les jours pour écouter dans les transports, par exemple.
Et avoir 10 minutes de science, comme ça.
Voilà. Et le week-end, vous rattrapez les dossiers, vous n'avez pas le temps d'écouter la semaine.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
Je voudrais juste...
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Néandertal portait-il des colliers ? Une équipe de paléontologues croates a découvert 8 serres d'aigles géants perforés et portant des traces d'usure et qui suggèrent donc qu'ils ont enfilé ces serres sur un lacet, un trophée de chasse sur un site néandertalien qui chamboule l'ordre d'émergence des traits culturels de nos ancêtres. Jusqu'ici, seul l'Homo sapiens s'était considéré comme ayant un esprit capable d'un tel comportement symbolique. Une crevette géante de 2 mètres de long qui se nourrit en filtrant l'eau comme les baleines, voilà ce que vous auriez pu croiser dans les eaux de l'Atlantique il y a 480 millions d'années. Ce nouveau spécimen nommé Ergirocassis Ben Moulae, du nom de son découvreur marocain Mohamed Ben Moula, est parmi les plus gros fossiles d'animaux marins de son époque. Il s'agirait d'un lointain cousin du groupe des arthropodes actuels qui comprend les invertébrés recouverts d'une carapace comme les crustacés, les araignées et les insectes. Et puis l'heure du réveil a-t-elle sonné pour Philae depuis ce matin et pour une semaine? Les astronomes de l'ESA vont tenter d'entrer en contact avec la petite sonde posée sur la surface de la comète Chury en novembre dernier. Les responsables de mission n'ont pas la certitude que le robot Philae puisse sortir de son mode de veille compte tenu du froid subi durant les derniers mois, mais ils se disent raisonnablement optimistes. Nous croisons donc tous les doigts pour Philae. Allez, la puberté précoce, un phénomène qui prend de l'ampleur, on en parle dans un instant. We'll be right back. Happy Shiny People avec R.E.M. à l'instant.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde. Ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
carré
dans les temps à venir?
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça.
La puberté précoce, phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur apparemment. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. Mes invités, Isabelle Flechner, François Vaillerette pour en parler, répondre à vos messages. Isabelle Flechner, vous êtes pédiatre endocrinologue à Paris et membre de l'AFPEL. Alors c'est l'Association française des pédiatres endocrinologues libéraux. Et vous êtes également membre de l'AFPA, Association française de pédiatrie ambulatoire. François Vaillerette, vous êtes le porte-parole de l'association Génération Future. Et puis vous publiez avec Marine Jobert, Perturbateur endocrinien, la menace invisible aux éditions Buchet-Chastel. Il y a un lien évidemment entre vos deux sujets. On en parle dans un instant. Les messages, les questions, les témoignages déjà nombreux. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Le journal Le Monde, consacré le 25 février dernier, justement dans son cahier Sciences et Médecine, un grand article à la montée alarmante de la puberté précoce, avec le nombre croissant donc, de petites filles qui montrent des caractères sexuels secondaires, prématurés, et les perturbateurs endocriniens qui sont donc fortement suspectés. Isabelle Flechner, les consultations pour ce motif sont de plus en plus fréquentes, c'est ce que vous constatez ?
Absolument. Ouais. Tous les jours, au quotidien, dans ma pratique, j'ai des questions à propos de la puberté. Ce ne sont pas systématiquement des pubertés précoces, mais c'est une préoccupation majeure, en particulier en ce qui concerne les filles. Et je pense que dans notre spécialité de pédiatre endocrinologue qui s'occupe de la croissance des petites tailles et des pubertés, sont les sujets principaux. Et je pense que la puberté précoce prend une place de plus en plus importante dans nos consultations.
Oui, avec beaucoup de parents désemparés, en tout cas, qui viennent aussi avec beaucoup de questions à ce sujet. D'ailleurs, on le voit dans les témoignages qui commencent déjà à arriver.
Absolument. Les parents sont très inquiets de voir leur petite fille qui est en CP ou en CE1 commencer à avoir des signes de puberté sont très avides de réponses. Il est parfois difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas une urgence médicale en tant que telle, c'est une urgence parentale d'inquiétude. Surtout que le signe étant l'apparition des seins avant l'âge de 8 ans, il faut savoir qu'il y a quand même une grande majorité des petites filles qui font une première poussée mammaire pour lesquelles ça régresse au bout de quelques semaines ou de 2-3 mois. Et donc, en général, on conseille aux parents de venir en consultation si le développement persiste plus de 3
mois.
C'est
ça. Ça peut ne pas être une précocité, mais effectivement, il faut surveiller, voir un petit peu comment les choses évoluent. François Veillard, perturbateur endocrinien. Quelques pages, justement, sur la puberté précoce dans votre ouvrage.
Oui, bien sûr. La puberté précoce, ce n'est pas le seul problème lié à l'exposition des populations aux perturbateurs endocriniens, mais ça en fait partie. Oui. On a beaucoup discuté avec le professeur Charles Sultan qui a eu à traiter beaucoup des jeunes filles dont on vient de parler. Il a publié également beaucoup d'études scientifiques. Et effectivement, ça fait partie des phénomènes alors, spectaculaires parfois, avec des manifestations très précoces, du fait qu'un certain nombre de polluants peuvent avoir un effet sur le développement des jeunes enfants. Une manifestation tout à fait impressionnante quant à ces symptômes ici.
Ouais. Isabelle Flechner, on va parler principalement des petites filles, même si ça concerne un petit peu les garçons, mais quand même dans une moindre mesure.
Absolument. Il y a très peu de puberté précoce chez les garçons et l'incidence ne semble pas augmenter à la différence des petites filles.
Comment ça se manifeste d'ailleurs chez les garçons ?
Alors chez les garçons, c'est l'augmentation du volume des testicules avant l'âge de 9 ans.
C'est le seul indice, a priori, d'une précocité ?
Voilà, c'est l'indice principal, aussi bien chez les filles que chez les garçons. La pilosité ou l'acné précoce, quand il n'y a pas de développement mammaire chez les filles ou d'augmentation du volume testiculaire chez les garçons, ce n'est pas une puberté précoce. C'est une pilosité précoce.
L'AFPEL, donc association que vous avez créée dans le domaine de l'endocrinologie pédiatrique, ça c'est vraiment une spécialité à part entière.
Absolument, c'est une spécialité à part entière. Nous sommes pédiatres spécialisés en endocrinologie pédiatrique.
Pourquoi avoir créé alors l'association ?
Alors parce que nous sommes de plus en plus de pédiatres libéraux qui faisons de l'endocrinologie pédiatrique et qui était avant une spécialité principalement hospitalière et nous avons souhaité justement homogénéiser et voir comment pratiquer cette spécialité en ville. Étant donné que les demandes sont très importantes, les services hospitaliers ne peuvent pas faire face à l'ensemble des demandes.
Donc ça permet de désengorger aussi un peu les services ?
Absolument, puisque les enfants qui ont des puberté précoce n'ont pas besoin d'avoir une structure hospitalière, aussi bien pour l'exploration initiale que pour le suivi.
Une question de Anne qu'on vous pose souvent, semble-t-il. Ma fille va avoir 10 ans, j'ai remarqué que sa poitrine s'était modifiée. Est-ce une puberté précoce à 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman?
Non, ce n'est pas une puberté précoce. La puberté précoce, c'est les seins qui démarrent avant 8 ans. Et il faut savoir que pour toutes les petites filles, en général, on a un intervalle d'environ 2 ans entre l'apparition des seins et l'apparition des premières règles. Donc à 10 ans, c'est tout à fait normal, c'est dans la moyenne actuelle. La plupart des filles actuellement ont les seins qui commencent à pousser entre 9 ans et demi et 10 ans et demi et sont réglés autour de 12 ans, 12 ans et demi.
Donc on parle vraiment de puberté précoce à quel âge? Alors je disais 8 ans tout à l'heure.
Avant 8 ans.
Avant 8 ans en France, hein, parce
en
que
France.
C'est ça. Hein.
Avant
selon
8
les
en
pays
France,
où on se trouve, évidemment.
Avant 8
phénomène...
ans en Europe, mais effectivement aux États-Unis, il semble que dans certaines ethnies, l'apparition des seins soit plus tôt encore et puisse être considérée normale à partir de 9 ans, par exemple, chez les Afro-Américains, mais ce n'est pas un phénomène que l'on observe en Europe du tout.
Ouais, François Vahirette, aux États-Unis, hein, c'est vrai que ça fait déjà de très très nombreuses années qu'on fait l'association de la puberté précoce avec les perturbateurs endocriniens.
Oui, alors il y a des études qui ont été faites en population. Très important, je pense avant la France, on a des chiffres un peu plus solides sans doute. Alors le profit de la population est sans doute un petit peu différent, mais il y a des chiffres assez affolants, on parle de plus de 10% parfois, alors avec des niveaux différents. Il faut toujours se méfier quand on compare les États-Unis avec la France, parce que les seuils ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est quand même un vrai phénomène sanitaire, puisque c'est quand même une grande partie apparemment de la population qui est touchée, je vous dis, sans doute plus de 10%, parfois on parle de 14, 15, etc. À des degrés différents, bien sûr, ça peut être une puberté légèrement avancée, ou alors des phénomènes qui apparaissent extrêmement précocement dans la vie du très jeune enfant, là c'est beaucoup plus spectaculaire et inquiétant.
Françoise demande, est-ce qu'il y a un lien entre la puberté précoce et l'infertilité? Alors, il y a beaucoup de questions hein, dans tous les sens, donc c'est intéressant de vous les poser au fil de cette émission.
Alors non, il n'y a pas de lien direct entre la puberté précoce et l'infertilité, mais il peut arriver que les filles qui ont des pubertés précoces aient aussi des règles irrégulières, une hypersensibilité hormonale, des ovaires polykystiques. Ça, on trouve peut-être de façon un petit peu plus fréquente chez les filles qui ont eu des pubertés précoces, mais il n'y a pas de lien direct.
Beaucoup de questions aussi autour de l'adoption. Alors, je ne sais pas si ça va vous surprendre. En tout cas, Anita nous dit ceci. J'ai adopté 2 enfants, une fille et un garçon. Mon fils arrivé à 5 ans a développé une puberté précoce à 8 ans. Il a été traité pendant 3 ans. Ma fille arrivée à 8 ans a aussi été traitée pendant 1 an et demi. La puberté précoce serait très fréquente chez les enfants adoptés grands. Même question d'Isabelle. Quel lien entre adoption et puberté précoce? Plus grande incidence de la puberté chez ces enfants adoptés?
Oui, absolument. Alors pour deux raisons. D'une part, en fonction des pays du monde, la puberté est plus tôt. On voit que dans le sud du monde, en général, la puberté est plus tôt que dans le nord du monde, mais parfois que les conditions socio-économiques reculent la puberté. Donc on voit que certains
enfants... En Amérique
enfants,
du Sud, par exemple.
En Amérique du Sud, en Haïti, par exemple. Ouais. Mais souvent, les conditions socio-économiques sont mauvaises et donc les filles ne développent pas leur puberté tôt. Et donc
c'est pas l'adoption en elle-même qui joue, mais plutôt le pays d'origine de l'enfant.
Le pays d'origine et le fait que les enfants arrive dans un ensemble très, avec plein de choses à disposition, et surtout que les enfants qui sont en général petits et dénutris ont une croissance très rapide initialement avec le rattrapage en poids et en taille de toute la croissance qu'ils n'ont pas pu faire avant. Et du coup, dans la continuité de ça, on voit souvent que la puberté s'enclenche comme un signe peut-être presque d'épanouissement du corps qui tout d'un coup se développe. Alors après, il faut voir aussi l'exposition peut-être auxquelles ils ont été confrontés dans la vie fétale dans ces pays-là.
François Vahirette.
Oui, effectivement, donc c'est toujours compliqué de trier les facteurs causaux. Il faudrait pouvoir reconstituer effectivement l'exposition à des produits toxiques, perturbateurs endocriniens, qui sont parfois utilisés et autorisés dans les pays du Sud au sens large et interdits chez nous. Donc il y a aussi ces facteurs qui peuvent rentrer en jeu.
Donc il y a ce choc des cultures, en fait, avec le changement d'habitude aussi pour un enfant qui vient d'un pays et qui intègre une nouvelle culture, qui peut jouer aussi sur la précocité de sa puberté.
Une nouvelle culture, mais surtout une nouvelle un nouvel environnement et je pense que la puberté est d'autant plus tôt que les enfants sont adoptés tard. C'est-à-dire que les nouveau-nés, je ne sais pas si l'incidence...
C'est ce que disait cette personne dans son témoignage, effectivement.
Voilà, je ne sais pas si l'incidence est plus importante pour les enfants adoptés nouveau-nés mais en tout cas, elle est très fréquente chez les enfants qui arrivent à 4-5 ans, par exemple, et qui ont une croissance qui s'enclenche très rapidement dans les deux premières années après leur arrivée et dans la continuité, la puberté qui se met en route.
Allez, on se retrouve dans un instant et puis on parle bien sûr de la responsabilité, entre autres, des perturbateurs endocriniens.
Du cadillac sur le flanc, du rouge à lèvres sur tes dents, des arpèges en tétant, des rapides, des courants, des slogans. Arcadie dans les temps. Des jours perdus, des nuits blanches, des coups tordus, mais tendance slogan. Violent. Des falaises dans le vent, des fadaises dans l'écran. Des silhouettes sous les bancs, décidément, décidément.
Evan Keller à l'instant sur France Inter, vous êtes dans la tête au carré, la puberté précoce est notre thème cet après-midi. Isabelle Fleischner, pédiatre endocrinologue, est notre invitée avec François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future. Et ce livre, Perturbateur endocrinien, la menace invisible, préfacé par Nicolas Hulot, c'est dans la collection Dans le Vif chez Buchet-Chastel. Beaucoup de questions pour vous, franceinter.fr. Le mot-clé l'attaque. Gabriel nous dit ceci, est-ce que les hormones de croissance données aux animaux peuvent avoir un lien sur la puberté précoce? Qui veut répondre? Allez, François Veillerette, à vous de vous y coller.
Tout à fait honnêtement pour dire que je ne sais pas.
Bien, Isabelle Fleischner, est-ce que vous, vous savez?
Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre les enfants traités par hormones de croissance et la puberté précoce.
Alors, sur les signes, justement, de cette puberté, on les a évoqués un peu tout à l'heure, donc une maturation des organes génitaux, une poussée de croissance, et puis aussi des modifications de l'humeur. Ça, ce sont des signaux à observer?
Absolument. Les parents rapportent souvent...
Une crise d'adolescence précoce, là
voilà,
aussi?
Voilà, des préadolescentes de 7 ans qui sont très émotives, irritables, qui pleurent facilement.
Qui claquent la porte déjà, qui partent de la maison?
Absolument. Et pratiquement, et ils sont surpris de ce changement de comportement chez leur petite fille. D'ailleurs, il y a aussi des études qui ont montré que les filles qui font des pubertés précoces non traitées ont des comportements adolescents 2 ou 3 ans, évidemment, avant les autres.
D'accord.
Voilà.
Bon,
donc,
et ça s'arrête aussi plutôt que les autres ou pas?
Et effectivement, la crainte était que ça pouvait entraîner ça.
Une période plus longue, mais non.
Voilà, mais a priori, non.
Bon, donc on va souffrir un peu plus tôt, mais après,
plus jeune,
ça va s'arranger.
Ce qui est plus ennuyeux.
Ouais. François Veillerette, dans votre livre, vous évoquez un cas absolument sidérant et rarissime quand même d'un bébé de 4 mois.
Oui, alors ce sont des cas qui nous sont rapportés par des médecins. Je vous ai parlé tout à l'heure du professeur Sultan qui rapporte un certain nombre de cas extrêmes, il est vrai, comme celui-ci, rare, fort heureusement, rarissime.
Oui.
Et ça montre ce phénomène peut être effectivement à l'extrême, quand il est particulièrement précoce.
Qu'est-ce qu'on observe chez cette petite fille de 4 mois?
On a des premières règles qui arrivent à quelques mois et on voit des poussées, ma mère aussi.
Avec des seins de la taille d'une orange.
Oui, ça paraît. Enfin, je veux dire, nous, on ne peut que rapporter ces propos, on a du mal même à représenter ce que ça peut donner chez un enfant de cet âge. Mais effectivement, c'est proprement ahurissant. Ça montre l'ampleur du dérèglement. Alors, le professeur Sultan a beaucoup recherché et publié sur les polluants environnementaux, notamment des pesticides utilisés en viticulture, qui est en, en posant l'hypothèse que ça pouvait être un des facteurs causaux de ce type de dérèglement extrême.
Les parents de cette petite fille étant exploitants agricoles, c'est ce que vous racontez, avec un entrepôt et 22 tonnes de pesticides.
Voilà,
donc ça pourrait avoir un lien direct.
Oui, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel pesticide, des vieux pesticides arseniers et autres chlorés, dont on connaît la capacité à perturber le système hormonal.
Qu'est-ce que vous pensez de ce cas, Isabelle Fechner? Il est très marginal.
Très marginal. C'est effectivement des cas exceptionnels. C'est plutôt, quand on parle de l'augmentation de l'incidence de la puberté précoce, c'est en général des petites filles entre 6 et 8 ans, la plupart du temps.
Une question d'un auditeur sur franceinter.fr. Ma fille née en Guadeloupe en 92 a eu une puberté précoce. Elle a été réglée à 8 ans. Faut-il s'inquiéter autour du chlordécone? François Veigret, vous nous rappelez ce qu'est
le chlordécone, qui était utilisé dans les bananeraies, un pesticide organochloré, interdit fort tardivement en France et qui est tellement persistant qu'on va le retrouver dans certaines régions des Antilles pendant très longtemps. Alors la contamination est en général très précise. Dans certains endroits, il y en a beaucoup, dans d'autres endroits, moins. On sait que ça peut être à cause de certains cancers, que c'est un perturbateur endocrinien. Donc on sait que globalement, ça peut accroître les problèmes. Difficile de dire pour une personne donnée si c'est en relation, mais effectivement, il y a un risque dans un environnement pollué par ce type de pesticides d'avoir des problèmes de perturbation hormonale de ce type.
Mais au fait, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Un élément de réponse intéressant avec ce documentaire Endoctrinement de Stéphane Aurel qui avait été publié l'année dernière, enfin diffusé sur Arte.
Bonjour Sherlock. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques implantés dans des milliers d'objets de consommation courante. Depuis son interdiction dans les biberons, le bisphénol A est le plus célèbre. Mais ce n'était qu'un détail. Il y en a dans les cosmétiques, les plastiques, les pesticides, partout. Ils sont peut-être des centaines. Ils passent dans les corps et la nature. Sang, cordon ombilical, lait maternel, rivière, ours polaire, ta mère, partout. On est cerné. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Les perturbateurs endocriniens piratent le système hormonal et jouent avec les hormones comme la testostérone ou les œstrogènes. Les plus vulnérables, ce sont les fœtus, ceux qui n'ont pas le choix, ceux à venir.
Nous, quoi ?
Si nos hormones sont dérangées pendant la grossesse, elles peuvent laisser une bombe à retardement qui explose en nous des années plus tard. Infertilité, malformation génitale, cancer du sein, de la prostate, des testicules, puberté précoce, troubles du développement, obésité, diabète. Les perturbateurs endocriniens sont des présumés coupables. L'Europe avait promis de nous protéger, nous, générations futures. Mais les choses ont mal tourné. Ta mission, retourner en 2009 et découvrir pourquoi.
Bonne chance !
Voilà, Endoctrinement, documentaire de Stéphane Aurel, François Veyret. Bon, on a un bon résumé là quand même.
Excellent résumé par une journaliste qui connaît très bien le sujet.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 alors?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, l'Union européenne a voté un règlement sur les pesticides, un nouveau règlement qui prévoyait d'exclure les pesticides perturbateurs endocriniens pouvant avoir un effet nocif sur l'homme. C'était un très bon règlement. Pour la première fois, on décidait d'exclure a priori une catégorie de produits. Le problème, c'est que pour exclure ces produits, il fallait en trouver une définition pour savoir ce qui rentrait dans la catégorie et ce qui n'y rentrait pas. Et que cette définition qui aurait dû être prise pour décembre 2013 n'a toujours pas été prise aujourd'hui, donc on a plus d'un an de retard, suite à un certain nombre de pressions très fortes exercées par l'industrie.
Bon,
ça a été très bien étudié d'ailleurs par Stéphane Aurel qui explique ça dans son documentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le règlement européen n'est pas appliqué et que les premiers pesticides perturbateurs endocriniens qui n'auraient pas dû voir leur autorisation renouvelée continuent à être autorisés.
Allègrement.
On n'applique simplement pas le droit. C'est quand même phénoménal. Et pendant ce temps-là, on fait une étude des conséquences économiques que l'application du règlement pourrait avoir sur l'industrie. Ce qui est
et alors là, c'est sidérant là aussi le résultat qu'on en obtient. Il y a une publication récente à ce sujet.
Oui, alors sur l'impact des perturbateurs endocriniens
sur la santé
maintenant, il y a une étude de l'Endocrine Society aux États-Unis qui vient de paraître quelques jours, qui est extrêmement clair. On sait que tout un tas de pathologies qui viennent d'être listées, des cancers, des problèmes de diabète, d'obésité, d'infertilité, etc., sont liés aux perturbateurs endocriniens. Ils ont chiffré, les scientifiques ont chiffré les coûts pour la société, les coûts de ces pathologies à plus de 155 milliards par an pour l'Europe. Ce qui fait, ça représente entre 1,2 et 2% de produits intérieurs bruts.
Et en attendant, le droit n'est pas appliqué.
Et en attendant, on n'applique pas les mesures qui permettraient de faire ces économies de santé, donc ça marche complètement à l'envers.
Voilà, donc les lobbies sont toujours aussi costauds. Tout va bien pour eux. Isabelle Fechner, donc dans les causes, justement, autour de la puberté précoce, les perturbateurs endocriniens, très clairement aujourd'hui, les études scientifiques le montrent, et puis l'obésité aussi.
Alors, effectivement, alors, l'obésité, c'est pas obligatoirement aussi clair que ça, mais il y a un profil typique de la petite fille qui va faire une puberté précoce. C'est-à-dire que ce sont des petites filles qui, dès l'âge de 2-3 ans, grandissent vite, au-dessus de la taille familiale, qui sont les plus grandes de la classe, hein, globalement, et qui ont en général tendance à prendre du poids. Oui. Qui en prennent plus ou moins en fonction de la motivation familiale à essayer de limiter ça. Et donc, elles grandissent très vite, très tôt, et on voit qu'elles atteignent des maturités corporelles en avance par rapport à leur âge réel.
Donc, c'est un signal déjà.
Voilà, c'est-à-dire que les petites filles qui grandissent vite et tôt, dès les premières années de vie, si on voit qu'elles prennent beaucoup de poids, il faut essayer de ralentir le phénomène parce qu'on sait que ça ne fera qu'accentuer la rapidité de croissance et donc le risque de puberté tôt. Il y a aussi des facteurs génétiques. Il y a des familles qui ont fait des pubertés précoces. Mmh. Et puis, il y a certains gènes qui commencent à être identifiés, peut-être responsables de puberté précoce. Ça, c'est assez récent, les travaux là-dessus. Ouais. Donc, c'est certainement multifactoriel pour que ça se déclenche chez une enfant.
Mais là aussi, l'épigénétique sera intéressante.
Oui. Oui,
parce que de quelle façon les éléments extérieurs agissent aussi sur les gènes.
Voilà, exactement, les gènes s'expriment ou non. Et puis, effectivement, c'est multifactoriel, l'obésité joue un rôle, mais on sait aussi qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui sont des obésogènes, qui vont favoriser l'apparition de l'obésité. Et donc, même là, il peut y avoir une explication au moins partielle liée aux perturbateurs endocriniens.
Isabelle Fleschner, pour les parents, alors lorsqu'on justement on observe ces premiers signes de puberté précoce, on va voir évidemment son médecin, et il doit essayer de répondre, lui, à quelles questions alors ?
Alors, déjà, effectivement, on va voir son médecin. Donc, en fait, on dit que le développement mammaire apparaît, c'est-à-dire qu'il y a une petite boule de la taille d'une grosse bille en fait, qui apparaît sous le mamelon et qui est souvent un petit peu sensible quand on appuie dessus. Mmh. Ça, c'est le signe qu'il y a une poussée mammaire. Donc après, comme je disais, il faut attendre quelques mois pour voir si ça persiste ou pas, puisque dans une bonne moitié des cas, ça régresse, pour éventuellement revenir encore, mais du moins, ça peut régresser, et si ça régresse, on surveille, il n'y a pas d'examen particulier à faire. Si cette poussée mammaire persiste, à ce moment-là, il faut aller voir un pédiatre endocrinologue qui fera différents examens sanguins et radiologiques pour essayer de savoir si cette puberté est vraiment démarrée ou pas. Parce que parfois, il y a des petites filles qui ont une poussée mammaire qui persiste, mais qui n'ont pas une vraie activité hormonale.
Et alors, qu'est-ce qu'on propose ?
Alors, si on
cas où, évidemment, ça se confirme.
Voilà. Alors, dans le bilan, on fait aussi une recherche de cause, parce qu'il y a de temps en temps la présence de dérèglements hormonaux qui peuvent être à la source de cette puberté précoce. Donc, on élimine quand même les causes pathologiques avant de conclure à une puberté précoce idiopathique, c'est-à-dire sans cause retrouvée. Et donc après, on propose de mettre en route un traitement pour bloquer la puberté, pour permettre à l'enfant de grandir et de vieillir sans devenir une jeune fille de façon prématurée.
Donc ce sont des hormones de synthèse ?
Ce sont des hormones de synthèse qui n'ont rien à voir avec l'hormone de croissance. C'est un produit qui se met à la place d'une des hormones normales de la cascade hormonale qui provoque les signes de puberté et qui va bloquer le système comme un barrage sur une rivière, en fait, où il n'y a plus du coup d'aucun signe ni aucune évolution.
Ouais. Donc la croissance est stoppée aussi ?
La croissance n'est pas stoppée. La croissance qui allait trop vite pour une petite fille de cet âge-là reprend un rythme normal pour l'âge et les signes se stabilisent ou régressent. Il n'y a pas de règle tant que le traitement est poursuivi.
Allez, on y reviendra tout à l'heure parce qu'évidemment il y a toujours des questions qui se posent autour des hormones de synthèse. Il y a une question d'Erina. Ma petite fille a démarré une puberté précoce à 8 ans. Elle était sous traitement hormonal entre 8 et 12 ans et à 12 ans on vient de lui détecter une scoliose sévère. Est-ce qu'il peut y avoir un lien ?
Alors non, il n'y a pas de lien direct entre la scoliose et la puberté précoce ou entre la scoliose et le traitement. Par contre, la croissance rapide, qui accompagne souvent au départ au moins une puberté, peut entraîner l'apparition d'une scoliose.
Allez, on se retrouve dans un instant. et c'est Moriarty. La puberté précoce, dernière partie de notre dossier avec Isabelle Fechner et François Vailleret. Toujours vos messages nombreux sur le site de l'émission. Kevin nous dit ceci, est-ce qu'il faut y voir un avertissement sur la consommation d'OGM au Roundup et ses effets de perturbateurs endocriniens, François Vailleret?
Le Roundup et toutes les pesticides formulés à partir de glyphosate sont pour moi clairement des perturbateurs endocriniens. Ça a été montré dans un certain nombre d'études, notamment dans les travaux du professeur Gilles-Éric Serralini. On sait que là-dedans, on a l'impact de tous les surfactants qui sont dans les formulations. Mm-hmm. Oui, il y a un effet perturbateur endocrinien sur les produits qui sont repérés comme tels.
Isabelle Fechner, une question intéressante de Clément qui nous dit si la puberté n'est-elle qu'une définition de maturité des caractères sexuels ou est-ce qu'elle a aussi un rapport avec le développement des capacités cognitives? Alors, est-ce qu'aussi on peut trouver une précocité dans ce domaine?
Alors, on trouve une précocité de comportement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des enfants qui sont plus préados avec des problématiques de préado adolescentes quand elles sont encore très jeunes. Oui. Par rapport aux capacités cognitives intellectuelles, je ne suis pas sûre qu'il y ait de précocité particulière de ce côté-là.
Bon, ça ne va pas de pair en tout cas avec la puberté précoce.
Non. Ça peut.
François Vailleret, on parlait tout à l'heure de ces traitements proposés donc pour la précocité avec cette hormone de synthèse. Alors évidemment, on pense tout de suite à d'autres hormones de synthèse, le distilbène en particulier. Vous disiez qu'on a un assez bon recul maintenant,
Isabelle. Oui, absolument. On a un recul de plusieurs dizaines d'années. Donc
il n'y a pas d'effet secondaire notable.
Il n'y a pas d'effet secondaire notable rapporté, ni sur la fertilité, ni sur la mise en place de la puberté après. Oui. Sachant que le fait d'avoir une puberté précoce n'est pas une garantie qu'après, le cycle fonctionnera parfaitement bien.
Mm-hmm. François Vailleret, vous rappelez justement dans votre livre que le distilbène a provoqué des effets délétères, mais de façon ricochée, en fait, d'une génération à l'autre. Ce ne sont pas les mères les premières qui ont pris le distilbène qui ont été touchées, mais les enfants.
Alors, c'est une caractéristique d'action des perturbateurs endocriniens. C'est la maman qui est exposée aux perturbateurs endocriniens va en fait programmer une pathologie qui va se développer soit pendant la croissance du fœtus, soit qui va apparaître plus tard dans la vie du jeune enfant. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des théories tout à fait sérieuses portées par les plus grands chercheurs, y compris en France, de l'origine développementale des maladies. Et ça peut aller effectivement de certaines malformations génitales. On pense justement aux effets des perturbateurs endocriniens sur le développement de l'appareil sexuel du garçon, les bourses qui ne descendent pas, des problèmes de cancer du testicule, des cancers plus fréquents qui vont apparaître plutôt dans la vie, des problèmes de diabète et d'obésité, des problèmes, donc des cancers hormonodépendants, bien sûr. Tout ça va apparaître plus tard dans la vie. Donc, c'est des effets qui n'ont pas lieu sur la personne exposée, mais sur sa descendance. Et parfois même, il y a des effets transgénérationnels. C'est-à-dire que ce n'est pas la fille qui va être exposée, mais c'est la petite fille, voire même des générations après. Ça, on l'a bien mis en évidence sur des travaux sur la souris, notamment avec le bisphénol A. Ouais. On voyait que c'était les petites filles ou les arrière-petites filles qui avaient toujours des problèmes de comportement, des problèmes d'obésité, alors même que c'était l'arrière-grand-mère qui avait été exposée au bisphénol. Donc on change complètement de la toxicologie classique dans cette affaire, puisqu'on a des effets complètement reportés.
Ça, c'est un vrai choc, d'ailleurs, la découverte de ces études.
Tout à fait. C'est
ce passage de génération de souris à une autre.
Et ça remet complètement en cause la conception classique de la toxicologie, où on appliquait le principe de Paracels, la dose fait le poison, et en dessous d'un certain seuil, il se passe rien. Là, on a des effets à très faible dose. Et parfois, c'est paradoxal aussi, parce que ce sont les doses les plus faibles de produits chimiques qui vont induire les effets les plus importants. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est parfois comme ça. Pas mal d'études ont été faites. Et puis, les effets, ils ne vont pas avoir lieu tout de suite. Ils vont
En
passant la barrière des générations. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le sens du bouquin qu'on a rédigé avec Marine. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment enlever tous ces produits chimiques de notre environnement.
Ah oui, il y a des conseils maison.
Voilà. Oui, alors, on sait bien que les conseils ne vont pas...
C'est-à-dire qu'on ouvre son sac poubelle. Pas en plastique de préférence, évidemment, son sac poubelle en papier, ce qui n'est déjà pas très pratique. Et alors, comment on fait le ménage autour de ces perturbateurs endocriniens, justement?
Alors, premièrement, ce n'est pas l'essentiel de la solution, puisqu'il y a des décisions politiques à prendre, il y a des produits à retirer. Mm-hmm. Mais effectivement, en attendant que les bonnes décisions politiques soient prises, il faut aussi agir dans son quotidien. On peut choisir de moins manger dans des ustensiles en plastique, surtout de ne pas les chauffer pour éviter les transferts de plastifiants dans les aliments ou dans l'eau. On peut essayer de manger une alimentation sans résidus de pesticides, alimentation bio par exemple. On peut essayer de ne pas s'exposer aux retardateurs de flamme dans les tissus, dans les canapés. Et voilà, on peut faire attention aux produits qu'on emploie pour sa toilette, par exemple, pour éviter des parabènes, etc.
Vous dites dans la chambre, les couettes, draps, matelas, tout ça.
Voilà. Alors, effectivement, il y a peut-être des choses à jeter pour lesquelles on n'a pas fait le bon choix.
Bah, vous allez nous coûter cher, dites-nous.
Mais non, parce qu'on vous propose de faire le vide, en fait, globalement, sur un certain nombre de produits.
On ne remplace pas.
Voilà. Non, mais il y a des choses dont vous pouvez vous passer. Par exemple, pour la toilette, un savon le plus pur possible peut remplacer plein de produits coûteux. Donc, vous pouvez en plus faire des économies.
L'aspirine, les antalgiques.
Alors, sur les antalgiques, il y a des études, effectivement, qui montrent au paracétamol aussi.
Que ça peut agir comme un perturbateur endocrinien.
Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, il y a une différence à faire. C'est que quand on est exposé au paracétamol, on le sait parce qu'on prend. On prend le produit et il y a un effet bénéfice-risque. Hein, puisque, voilà. Ce qui ne veut pas dire que le paracétamol n'est pas sans danger. Puisqu'il a des
On en a parlé très récemment.
C'est assez important. Ouais. Et vous le savez, alors que les polluants perturbateurs endocriniens, ils sont autour de nous. C'est pour ça qu'on a intitulé le livre Perturbateurs endocriniens, la menace invisible, parce qu'on ne les voit pas. On ne sait pas à quoi on est exposé. Aujourd'hui, on a publié un petit rapport basé sur l'analyse de cheveux de 28 jeunes femmes de l'Île-de-France. Et on s'aperçoit que sur une soixantaine de substances perturbateurs endocriniens qu'on a recherchées, on en trouve plus de 21 en moyenne dans les cheveux de ces femmes, ce qui veut dire que l'ensemble de la population est exposée, sans le savoir, à un cocktail de perturbateurs endocriniens.
Bon, ben, toutes ces joyeusetés, on peut les découvrir en
lisant. Voilà, on découvre aussi comment faire pour ne pas être exposé trop.
Il y a quand même des choses positives.
Oui.
Isabelle Fleschner, les conséquences pour la santé et aussi sur l'aspect psychique, en tout cas, de ces jeunes filles précoces, ça c'est bien étudié aussi aujourd'hui.
Alors effectivement, ce qui nous pose problème dans la puberté précoce, c'est le fait de grandir vite en termes de taille et de s'arrêter plus tôt, de se développer plus tôt, mais c'est aussi tout l'impact psychologique que ça a quand on a 7 ans, qu'on est en CE1 et qu'on a un corps de jeune fille qui commence à se développer. Et donc, on voit souvent que les petites filles sont très mal à l'aise et c'est une des motivations pour mettre en place un traitement, à la fois pour éviter les changements physiques, mais aussi psychologiques que l'on constate et qui sont mal vécus par les enfants et les parents.
Quels sont les risques de développer des problèmes de santé particuliers à l'âge adulte ?
Par rapport à la puberté précoce, il y a peut-être une faible augmentation du risque de cancer du sein et souvent plus d'ovaires polykystiques.
Oui.
Chez ces petites filles.
La question de Stéphane, un papa, ma fille a 7 ans, elle répond à vos descriptions très grandes pour son âge, plutôt fortes. Comment va évoluer cette prise de poids ? Je suis assez inquiet, nous dit ce père.
Alors la prise de poids qui démarre avant la puberté s'accentue souvent au moment de la puberté parce que les hormones féminines ont plutôt tendance à faire prendre du poids chez les enfants. Le moyen de lutter le plus contre ça, c'est certes de faire attention à l'alimentation mais aussi d'augmenter l'activité physique au maximum. On sait que l'activité physique a un effet bloqueur des effets hormonaux sur la prise de poids assez efficace, mais il faut faire plusieurs heures de sport par semaine.
Allez, on va se quitter avec un dernier extrait de ce documentaire Endoctrinement de Stéphane Aurel.
Je voudrais que les gens comprennent l'ampleur et l'importance du problème. Il ne s'agit pas d'un obscur débat toxicologique dans un recoin de l'Union européenne. Je cherche toujours la meilleure manière de l'expliquer, mais je pense qu'il s'agit de l'équivalent du changement climatique en matière de produits chimiques dangereux et de santé environnementale. C'est la mère de toutes les batailles.
In environmental health, in terms of hazardous chemicals, we're looking at a mother of all battles.
Voilà, c'est un peu la conclusion de notre discussion hein, sur les perturbateurs endocriniens aussi, François Vaillerette.
Oui, tout à fait. Il y a une grande partie des maladies chroniques qui seraient évitables si on retirait de notre environnement ces perturbateurs endocriniens. Donc il y a des gains sanitaires, des gains économiques importants. C'est vrai que c'est un peu fondamental. Est-ce que c'est équivalent du changement climatique ? Peut-être de la même ampleur, puisqu'il y a un impact sociétal, économique formidable. Donc, mais il y a une voie de progrès aussi formidable. Il faut agir pour faire disparaître ces produits qui sont nocifs à la santé.
Perturbateurs endocriniens chez Bûcher-Chastel. Merci beaucoup Isabelle Fleschner d'être venu aussi cet après-midi dans La Tête au Carré.